Bon, bien bonjour à tous. J'espère que vous avez bien dormi et que vous n'aurez pas besoin de rattraper le sommeil pendant que je parlerai. Alors, il y avait un professeur de philosophie qui demandait à ses élèves, après un cours un peu compliqué, est-ce que vous m'avez compris ? Alors les élèves, pour lui faire plaisir, répondaient oui. Et il leur disait, alors je me suis mal expliqué. Alors moi, au contraire, je suis content de voir, en écoutant le résumé qui a été fait, de reconnaître complètement, même quelquefois mieux, ce que j'ai essayé de dire hier. Hein. Donc, quand même, j'ai dû bien m'expliquer, du moins, j'ai reconnu ce que j'avais cherché à expliquer. Alors, ce matin, hier, je suis parti d'une façon un peu générale sur la façon, justement, dont la conscience était celle qui nous éclairait, mais que cette conscience avait besoin d'être éclairée elle-même par la loi, hein, et que malgré tout, malgré qu'elle pût être éclairée, nous, la liberté qui était la nôtre faisait que nous avions la liberté de la suivre, ou la liberté finalement de faire autre chose. Ce matin, je voudrais effectivement m'attaquer un peu plus au problème directement de l'affectivité. Donc, en retrouvant toujours quand même autour de la trilogie, la loi, la conscience et la liberté. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que même si on n'est pas tout à fait en accord avec la loi évangélique, il y a toujours quand même un chemin possible. Bon, hier, j'étais assez à l'aise parce que je parlais généralement. Aujourd'hui, parce que je risque d'aborder un peu plus des problèmes directement d'affectivité, je risque effectivement de blesser, de ne pas rencontrer, mais comme vous aurez des occasions de discuter entre vous, vous pourrez toujours dire dans quel coin, dans quel domaine vous vous reconnaissez ou pas. Au point de départ, j'avais peut-être à tort, mais je voulais faire un rapprochement entre un autre domaine où je travaille habituellement, qui est celui des divorcés remariés. Et avec les divorcés remariés, je leur dis oui, peut-être que vous êtes hors la loi, peut-être que ce que vous vivez, c'est pas ça que vous auriez dû vivre. Mais même si vous êtes hors la loi, vous n'êtes pas hors de l'amour du Christ. Le Christ vous suivra où que vous alliez, il sera avec vous où que vous alliez. Le Christ continue à vous aimer. Mais non seulement le Christ continue à vous aimer, mais le Christ aussi a toujours des attentes envers vous. Le Christ aussi pense que même si dans une situation où vous n'êtes pas en totalité en accord avec ce qu'il attendait de vous, même si le nouveau mariage que vous avez fait n'est pas celui qu'il aurait souhaité, il attend toujours des choses de vous. Parce que d'abord, il y a des tas de domaines où vous pouvez vivre en chrétien. Il y a des tas de domaines où, quelle que soit votre situation matrimoniale, il y a encore des tas de choses où vous pouvez vivre en chrétien. La prière, la participation à l'Eucharistie, la fraternité, l'engagement même social, l'engagement dans l'Église. Vous avez encore des tas d'endroits, des tas de domaines dans lequel vous pouvez montrer votre fidélité à Dieu. Dieu attend toujours de vous un certain nombre de choses. Et même dans le domaine, même dans votre situation, qui peut-être n'est pas celle dont Dieu rêvait, ni même celle dont vous rêviez le jour où vous êtes marié, bien, Dieu attend quand même que votre situation actuelle crée quand même des devoirs. Peut-être que le couple que vous avez formé n'est pas celui que vous avez fait au départ, mais ce nouveau couple, ce nouveau couple, il crée des devoirs il crée des devoirs pour vous. Il crée des devoirs d'amour, de fidélité, d'engagement. Même si il laisse écrit un autre devoir, celui quand même de rester en paix par rapport au premier couple. Mais indépendamment de ça, peut-être que ce couple n'aurait pas dû exister, mais puisqu'il existe, vivez-le à fond, vivez-le dans l'amour, vivez-le dans la tendresse, vivez-le dans l'écoute de l'autre, dans le soutien de l'autre, dans le pardon et dans la durée. S'il n'a pas pu être indissoluble au premier élément, premier couple que vous avez fait, au moins celui-là, essayez de le vivre comme vous n'avez pas vécu le premier couple. Autrement dit, ce que j'essaye de dire, c'est même quand nous ne vivons pas la totalité de ce que Dieu attend de nous, il attend toujours que nous vivions la totalité de ce qui est possible. Alors, donc je leur dis, bien, continuez à aimer, continuez à vivre dans la durée, continuez à vivre dans la tendresse, dans le soutien de l'autre, tout en gardant une certaine paix de premier couple, mais engagez-vous à fond dans ce couple nouveau que vous avez fondé. Tandis que ce que j'essaye de dire, c'est que dans toute situation, quelle que soit finalement sa conformité avec la loi chrétienne, c'était hier, même si on est en particulier hors la loi, le Seigneur attend toujours de nous des choses. Quelle que soit notre situation, même si elle n'est pas tout à fait dans sa totalité conforme avec ce que l'Évangile attend, il y a des tas de choses qui restent possibles de l'Évangile, et même il y a des tas de choses qui reste possible dans cette situation. Dans ce couple-là, peut-être qu'il n'aurait pas dû être. Mais puisqu'il est, eh bien, vivez-le à fond. Vivez dans ce couple l'amour que vous n'avez pas pu vivre dans le premier couple. Dans cette situation qui peut-être n'aurait pas dû être, vivez à fond tout ce qui est attendu du couple. Alors, j'ai envie de dire des choses analogues par rapport à la situation de personnes ayant touché par la question de l'homosexualité. D'ailleurs, de façon différente, ce qui me frappe depuis que je fréquente devenir en Christ ou d'autres situations, c'est de voir qu'on met sous le mot homosexualité des choses assez différentes, à la fois vie en couple, pas vie en couple, situations diverses. Finalement, on met sous le mot de personnes ayant un problème avec l'homosexualité des réalités très différentes, des sentiments très différents, des prises de conscience très différentes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas envie de me prononcer sur la légitimité ou pas. C'est un fait vis-à-vis duquel on n'est pas toujours libre. C'est un fait qui a donné lieu à des engagements différents. Les uns sont restés célibataires, les autres ont, d'une façon ou d'une autre, engagé un compagnonnage, de se dire, dans ces situations-là, d'abord, le Seigneur nous aime toujours. Je crois quand même que c'est la première chose à se dire. Quelle que soit notre façon de vivre, le Seigneur nous aime toujours. Et quelle que soit notre façon de vivre, le Seigneur a toujours des attentes envers nous. Et c'est un peu sur ces attentes du Seigneur qu'il est important que nous réfléchissions, qui sont différentes pour les uns et pour les autres. Il peut y avoir ceux qui ont décidé de rester célibataires, mais qui doivent justement quand même vivre un engagement profond vis-à-vis des autres. le célibat n'est pas le fait de restreindre sa capacité d'amour, sa capacité de don de soi. C'est, on doit toujours trouver d'autres façons de vivre la fécondité, de vivre l'engagement au service des autres, hein, de vivre, de faire en sorte que, oui, il y a une fécondité réelle, que par nos engagements, par nos façons d'être avec les uns les autres, hein, nous soyons des gens qui faisons naître de la vie, etc. Donc de s'interroger, est-ce que ma façon de vivre seule, est-ce qu'elle est quand même source de générosité, de don de soi, de fécondité? Est-ce qu'elle est pour moi le fait de n'être pas engagé dans le domaine d'un couple, l'occasion quand même de me donner totalement aux autres? J'insiste beaucoup là-dessus dans d'autres célibataires, que sont les célibataires prêtres ou futurs prêtres, de leur dire le célibat n'est pas la fin du don de soi, il est, je ne me donne pas à un couple, je ne me donne pas dans telle situation, pour me donner davantage ailleurs. Toute vie, quelle qu'elle soit, doit être une vie donnée. Et puis, ben, si vous créez un couple, bien, je veux dire, il est important de ce couple soit vécu jusqu'au bout. Peut-être, je ne sais pas quelle est la légitimité de ce couple, etc. Mais je me dis, puisque vous voulez vivre en couple, vivez-le à fond. Un peu comme, j'aurais envie de dire, ce que je dis au jour du mariage, au couple hétérosexuel qui se marie, ce qu'on leur dit sur le devoir d'amour, de se donner, de ne pas, de pardonner, de tendresse, d'écoute, de soutien. J'ai envie de dire, puisque vous voulez vivre un couple, vivez-le profondément de cette manière. Vivez-le à fond, pas du pardon, et même, j'allais dire, dans les deux éléments qui concernent le mariage, à savoir la fidélité et l'indissolubilité. Si vous avez décidé de créer un couple, bien que ce soit un couple où l'attachement que vous donnez l'un à l'autre soit un attachement fidèle, je n'aurai pas d'autre affection que toi. Et qu'il soit un attachement indissoluble, je te resterai fidèle quoi qu'il arrive. Je crois que le modèle chrétien, le modèle présenté de l'alliance d'un homme et d'une femme, si pour des raisons diverses, c'est une autre alliance que l'on vit, je crois qu'il est important de la vivre dans les mêmes conditions, d'amour, de tendresse, d'ouverture à l'autre, d'écoute et de fidélité, pas d'autre amour que toi, d'indissolubilité, je te resterai fidèle pour toujours. Je crois que le modèle du mariage tel qu'il est quelque chose qui est à reproduire d'une façon ou d'une autre. Je dirais même dans les débats autour du mariage pour tous, je ne sais pas si c'est le mot mariage qu'il faut employer, mais je dois reconnaître que spontanément, je trouve qu'il n'y a pas de risque à aller plus loin dans l'engagement. Bon, le Pax a été un premier pas, qui restait surtout sur des questions juridiques, sur des questions sociales, etc. Pas tellement, il demande pas l'amour. D'ailleurs, même le mariage ne demande pas l'amour, il demande la fidélité. Quand le maire lit les articles du Code civil, il n'y a pas amour. Mais le Pax, finalement, pour moi, restait d'abord un accord souvent d'ordre de type économique, hein, qui ne demande pas ni d'amour ni de fidélité, et qui ne demande pas non plus d'indissolubilité, de durée. Si j'ai un rêve, ce serait que finalement, quand même, hein, le Pax protège mieux les personnes les unes contre les autres. La façon dont on peut se libérer, hein, divorcer même sans toutes les garanties du divorce, du mariage civil, ben ça me paraît une insuffisance. Hein. Si finalement on fait alliance, il est important aussi que cette alliance soit protégée, hein, que finalement on ne puisse pas se renvoyer n'importe comment, se renvoyer l'un l'autre. Et j'ai envie de dire Pax ou pas Pax, à partir du moment où une alliance a été engagée, il est important que cette alliance soit une alliance d'amour, c'est-à-dire que d'inviter les couples qui se sont créés de même sexe, etc., à vivre profondément une alliance d'amour, d'attention à l'autre, de soutien, et une alliance durable. Je crois que, puisqu'on a voulu faire quelque chose qui a des allures de mariage, d'alliance, qu'il en prenne aussi toute la vigueur, toute la durée, tout l'engagement. Je crois que c'est quelque chose qui... Enfin, il me paraît important qu'à partir du moment où on s'engage dans une alliance qui ne portera peut-être pas le nom de mariage, que je suis prêt à réserver, mais qu'elle en ait quand même la garantie, la solidité. Et je me dis, même dans les lois qui sont en train de se préparer, bon, j'aurais préféré qu'un autre nom soit donné que le mariage, mais je me dis, si ça peut être une occasion quand même de stabilité, si le fait de donner une apparence juridique qui ressemble de près au mariage fait aussi que les couples vivront quelque chose qui aura la solidité, l'amour, l'attention à l'autre, la durée, je me dis, je crois que ça sera quand même tendance à penser que ça sera un progrès. J'aurais préféré un autre nom, mais je me dis, il peut y avoir là quelque chose qui est fait œuvre de stabilité en aidant mieux à s'engager l'un à l'autre et à s'engager pour toujours et profondément l'un à l'autre. Le nom, ça m'est égal. La réalité, protégée par l'État, après tout, peut peut-être être considérée comme un progrès. Autrement dit, ce que j'essaye de dire, c'est, je ne sais pas si ce couple... Bon, bien sûr, il y a plusieurs façons de vivre son homosexualité. On peut la vivre sous le mode du célibat, voire même du célibat continent. La condition que ce soit un célibat engagé. Pour moi, quand quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, dit « je veux m'engager dans le célibat, je ne veux pas créer d'alliance, je veux rester seul, mais pas rester solitaire et devenir solidaire ». J'ai envie de jouer sur les deux mots. C'est-à-dire, même, parce que c'est ce que je dis aussi aux prêtres religieux, religieuses, le célibat n'est pas la mort de l'affectivité. Le célibat, c'est je n'engagerai pas mon affectivité dans un lien particulier avec une personne, quelle qu'elle soit, mais cette affectivité que je n'engagerai pas dans une alliance, je l'engagerai d'une autre façon dans la société. De toute façon, je me donnerai pas peut-être à quelqu'un, mais je me donnerai à l'ensemble des autres. Le célibat ne doit pas être la mort, hein, de l'amour et de l'affectivité. Il doit être le fait parce que je suis disponible, je suis encore prêt à me donner davantage et autrement. Et puis, l'alliance, donc rester célibataire, et puis l'alliance, qu'elle ait toutes les formes de l'alliance, telles que le code civil d'un côté et l'Évangile a pu le présenter par la suite, auparavant, une alliance dans la fidélité, dans l'amour, pour toujours. Je pense que si on veut vivre un couple, même si ce n'est pas le couple qui paraît souhaitable, qui paraît même souhaitable à l'Église, qu'il en ait la durée, la stabilité. Et j'ai été frappé de lire tout récemment, vous savez, il y a un document que les évêques, conférence épiscopale française a sorti à propos d'élargir le mariage aux personnes de même sexe. Ouvrons le débat. Alors, il y a toute une condition du débat, il y a quand même le rappel du refusé de l'homophobie, d'un large débat, et il y a cette phrase, la diversité demande de reconnaissance, donc entendre, il y a tout un passage sur entendre les demandes des paroles des personnes homosexuelles. Alors bon, après ils nous disent, les pratiques, le nombre, les pratiques, plusieurs études montrent que les pratiques homosexuelles ont évolué, que l'aspiration à vivre une relation affective stable se rencontre de plus en plus fréquemment aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qui reconnaît la diversité, mais quand même, de voir comme un progrès le fait d'une relation affective et stable. Et justement, il reprend dessus, la diversité des pratiques homosexuelles ne doit pas empêcher de prendre au sérieux les aspirations de celles et ceux qui souhaitent s'engager dans un lien stable. Le respect et la reconnaissance de toute personne revêtent désormais une importance primordiale dans notre société. Donc même si après il fait des réserves, la société, tout comme l'Église dans le domaine qui lui est propre, entend cette demande de la part des personnes homosexuelles, donc la valeur d'une relation affective stable, tout en affirmant l'importance de l'altérité sexuelle, etc. Nous pouvons estimer le désir d'un engagement à la fidélité, d'une affection, d'un attachement sincère, du souci de l'autre et d'une solidarité qui dépasse la réduction de la relation homosexuelle à un simple engagement érotique. Moi, je suis frappé de voir justement qu'il y a là nettement une reconnaissance sur, nous pouvons estimer le désir d'un engagement à la fidélité, d'une affection, d'un attachement sincère, d'un souci de l'autre et d'une solidarité qui dépasse la relation. Je pense qu'il y a là quelque chose d'important qui, tout en disant, c'est peut-être pas la situation que nous souhaitons, c'est même tout en disant, nous ne tenons pas tellement au mariage dans ces cas-là, malgré tout, nous reconnaissons qu'il y a dans ce qu'ils disent, l'engagement, l'affection, l'attachement sincère, le souci de l'autre, la solidarité, etc., qu'il y a quelque chose d'important et quelque chose à promouvoir. Je suis frappé de cette reconnaissance officielle par l'Église de dire, même si cette relation nous pose problème, elle crée des devoirs. Elle crée des devoirs, et des devoirs qui sont proches de ceux qui lient toutes les fois où il y a alliance entre personnes. Donc, ça m'a paru intéressant comme Bon, quand on lit les textes de l'Église, vous le trouverez donc dans... Moi, je suis dans la Dictation catholique, c'est un texte tout récent. Il a aussi refusé l'homophobie, et surtout entendre la demande des personnes homosexuelles. Alors après, ils vont résister sur la volonté de gommer les différences, mais quand même la relation stable, et même prêt à aller plus loin que juridiquement que le pacte, tout en les prenant position contre le mot mariage lui-même. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que ma parole soit étouffée par les écrits de l'Église, quand même. Malgré tout, je suis content. Malgré tout, je suis heureux de voir que l'Église, tout en ayant d'autres souhaits, reconnaît déjà tout ce qu'il y a d'amour, tout ce qu'il y a d'alliance, etc., tout ce qu'il y a, j'allais dire, d'évangélique dans quelque chose, même si elle ne reconnaît pas jusqu'au bout. Mais c'est intéressant de nous rappeler, justement, que quel que soit le statut qui soit donné au couple que peuvent former des personnes de même sexe, de reconnaître qu'il y a quand même tout un cheminement évangélique qui, dans cette situation, leur est demandé et qui ressemble par bien des côtés, qui ressemble, parce que l'Église n'a pas tellement de modèles à présenter, à la limite, elle n'a pas d'autres modèles à présenter que Marie aimait votre femme comme Christ aimait l'Église. Si vous vivez une alliance, vivez-la comme le Christ l'a vécu. Je crois que l'Église n'a qu'un seul modèle, le Christ. Pour tout d'ailleurs, pas seulement pour l'alliance, mais pour tout le reste. Et justement d'ailleurs, c'est ce qui nous est rappelé, et ce qui est rappelé par devenir en Christ, de se dire, bon, même s'il y a problème sur nos attitudes, sur l'alliance que nous faisons, etc., il y a, même si peut-être elle est discutable ou autre, malgré tout, à l'intérieur du choix fait, l'Église, le Christ a toujours des attentes envers nous. Et je crois que c'est quelque chose qui est important de rappeler dans toutes les situations, même qui sont un peu hors la loi, de rappeler aux personnes qui ne vivent pas dans la totalité de ce que l'Église, voire l'Évangile souhaiterait, de leur dire, vivez quand même tout ce qui vous est profond, tout ce qui vous est possible. Alors, c'est des choses que je dis à toute personne qui est en difficulté avec tel ou tel point de l'Évangile, de lui dire, même si sur ce point-là vous avez de la peine à vivre comme l'Évangile l'attend, il y a tellement d'autres domaines où vous restez libre. Alors je le dis aux divorcés remariés, je le dis aux alcooliques, beaucoup travaillé à une époque donnée aux alcooliques, de se découvrir que c'était par certains plus fort qu'eux, c'était par certains moments leur liberté n'était plus directement possible, elle était dominée, et de leur dire, quand même, engagez-vous dans tout ce qu'il vous reste possible. C'est-à-dire, plus finalement vous avez de la peine à vous libérer de l'alcoolisme, plus ça demande de vous engager par ailleurs. Enfin, pour moi, c'est une réaction dans tous les domaines, alcoolisme, drogué, je ne mets pas sur le même pied, c'est une action, c'est toujours de dire, même si sur un point vous n'êtes pas libre, il y a tellement de choses où vous êtes libre et où le Christ attend des choses de vous. Toute personne dont la liberté, pour différentes raisons, est limitée, de leur dire, malgré tout, il y a encore des choses possibles. D'ailleurs, je le dis même dans des domaines qui ne relèvent même pas de la culpabilité, quelle qu'elle soit. Je le dis à des malades, je le dis à des vieillards, je le dis à des... Hein, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez fait autrefois. Hein, vous êtes cloué sur votre lit, vous avez des tas d'infirmités qui vous arrivent. Mais il y a encore tellement de choses possibles. C'est-à-dire, pour moi, ce qui me paraît important, c'est que on s'obstine pas sur les lieux où on n'a plus de liberté, mais qu'on s'obstine sur ceux où on a de la liberté. J'irais même, hein, plus on a de difficulté à vivre l'évangile dans un domaine ou un autre, plus ça demande qu'on s'engage à fond dans tout ce qui nous reste de liberté. Et d'ailleurs, moi j'ai parlé d'alcoolisme, parce que j'ai travaillé beaucoup à une époque donnée avec la Croix d'Or, Vie Libre, etc. Même avec des prêtres alcooliques, ça existe. Je vois quand même le cas de deux prêtres alcooliques lors de leur enterrement. Les gens étaient là et disaient, c'est vrai, certains soirs, il n'était pas beau à voir. Certains soirs, on l'a ramené directement au presbytère parce qu'il était incapable de revenir. Mais quand même, il y avait chez lui un amour pour nous. Il y avait même chez lui une tendresse pour tous les handicapés de la vie, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que par rapport à d'autres prêtres qui ont une vie, disons, normale, mais qui, quelquefois, manquent de tendresse et de miséricorde. Lui, à cause de sa situation, il était l'un de nous, il était proche de nous. Quoi. Hein. Donc, ça m'a frappé, parce que ça m'a, dans deux cas, où les gens disaient, hein, c'est vrai qu'il avait des limites, mais par ailleurs, hein, ses faiblesses le faisaient proche de nous. Et c'est peut-être là aussi une occasion de fécondité. Nos faiblesses qui... Vous voyez, Jésus dans l'Évangile n'aimait pas trop les pharisiens, hein, qui étaient juste, qui étaient des types bien pensants, bien sous tout rapport. Mais justement, parce qu'à cause de ce bien sous tout rapport, ils étaient renfermés sur eux-mêmes, ils étaient jugeant les autres, ils étaient méprisants pour les autres à cause de leur soi-disant justice. Et Jésus a toujours préféré ces gens qui ne sont peut-être pas justes, hein, ces prostituées, ces publicains, etc., mais qui, à cause de leur faiblesse, sont capables de comprendre et d'accueillir la faiblesse des autres. Alors bon, ce n'est pas un encouragement à vivre la faiblesse au maximum, hein. Mais c'est, comment dirais-je, c'est une invitation à reconnaître que nos faiblesses, nos difficultés personnelles peuvent créer chez nous une fécondité de capacité de miséricorde et de compréhension pour les autres. Moi, je vois encore ce père de famille, pater familias, le vrai, là, vous savez, avec ses enfants, etc., enfin, fier de lui, fier de sa famille, etc. Et puis, sa femme meurt, puis comme il s'était divisé tout seul, ben, il épouse une divorcée, avec tous les problèmes que ça rencontre pour lui. Et après, il me dit, ah, ça m'a fait du bien. Parce que avant, j'étais fier de moi, j'étais fier d'être un bon chrétien, d'être un bon... Maintenant, j'ai des problèmes, même pour la communion, j'hésite, etc. Mais finalement, ça a mis en mon cœur, d'abord, une humilité, une confiance en Dieu, et puis une compréhension pour les autres qu'il n'y avait pas auparavant. Alors, ce n'est pas une invitation à pécher, mais le Seigneur est capable, même avec nos faiblesses, de servir de nos faiblesses pour nous faire progresser dans la miséricorde et la compréhension des autres. Hein? Le Seigneur se méfie toujours des justes au cœur sec. Hein? Finalement, hein, la faiblesse, le péché, et on est tous dans ce cas-là, quand on le reconnaît, ça peut faire de nous des hommes miséricordieux. Hein? Je ne suis pas comme le reste des hommes, si, je suis comme le reste des hommes. Et tous les hommes, je dois les accueillir parce que nous sommes ensemble des pauvres frères qui avançons avec nos faiblesses, avec nos limites, mais qui ne désespérons pas ni de l'amour de Dieu pour nous, ni de notre volonté d'aimer Dieu malgré tout. Je suis frappé, j'étais beaucoup frappé dans ma vie, de voir justement toutes ces personnes ayant des difficultés importantes de tout domaine, de voir comment ça peut creuser en eux la découverte de Dieu. Comment la souffrance, bien sûr, mais la faiblesse peut creuser la découverte de Dieu. Et je dois vous dire depuis que je fréquente le DWEC, mais même hier soir, j'étais très frappé par la prière d'hier soir, la célébration d'hier soir. Et je suis très frappé même quand j'écoute comment on prépare la prière, comment on la vit. Je me dis, si vous n'aviez pas eu les difficultés que vous avez eues, si vous n'avez pas rencontré l'Évangile à travers le DWEC, est-ce que vous seriez le chrétien que vous êtes aujourd'hui? Moi, je suis frappé de l'ambiance chrétienne du groupe, là, quand, aussi bien dans la prière, mais aussi dans l'amitié, la fraternité, ça s'embrasse à tour de bras, bon, ça ne veut rien dire. Mais, si, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire quelque chose. Bon, ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, la faiblesse, les difficultés, les interrogations que vous êtes amené à vous poser à cause de ce qui vous est tombé dessus d'un certain côté, ont creusé finalement en vous une fraternité chrétienne, une ouverture au Seigneur, une humilité par certains côtés aussi. Donc ça me frappe une fois de plus. Il y a des jours, je me demande si le Seigneur ne le fait pas exprès. Mais ça me frappe une fois de plus de voir que les chrétiens que je vois souvent, les plus sensibles à Dieu, les plus sensibles à la foi chrétienne, à la volonté de vivre chrétien, sont souvent des chrétiens qui ont été des chrétiens blessés et pour qui cette blessure a été l'occasion d'un cheminement qui n'avait pas eu. Et ça ne m'étonne pas, regardez déjà dans l'Évangile, la Samaritaine, Marie-Madeleine, etc. Enfin, toutes ces personnes qui étaient des blessées de la vie par certains côtés, et qui, à travers cette blessure, rencontrent le Christ. Donc je me dis, n'ayons pas peur de pécher, mais le péché a un gros avantage, c'est qu'il nous ramène à la vérité sur nous-mêmes et qu'il nous ramène à l'attente du Seigneur. Finalement, reconnaître son péché sous toutes les formes, hein, parce que c'est quand même le manque d'amour qui est quand même le péché fondamental. Reconnaître son péché, ses faiblesses, ce côté lamentable, c'est quand même le début souvent de l'importance donnée au Seigneur. Donc je suis frappé comment, dans la vie de beaucoup d'hommes, et même mais dans la vie des prophètes, le péché de David, c'est fou ce que ça lui a fait faire comme progrès. Je suis frappé dans la vie de beaucoup de saints, etc., comment finalement la découverte d'une faiblesse en eux, la découverte a été l'occasion de reconnaître le Christ, de reconnaître Dieu. Et comment la négation de la faiblesse qu'on rencontre chez les pharisiens, je suis juste, j'observe la totalité de la loi, comment cette négation cette affirmation de sa justice et cette négation de sa pauvreté est quelque chose qui est une fermeture à Dieu. Je crois que nous ne serions pas les uns et les autres ce que nous sommes comme chrétiens si les uns et les autres nous n'avions pas pris conscience de tout ce qu'il y avait de non-chrétiens en nous. Et finalement, la conscience de nos faiblesses, de nos insuffisances, de nos péchés, de nos égoïsmes, etc., qui peut susciter en nous le désir d'autre chose, la soif d'autre chose, même si nous n'avons pas la liberté de pouvoir changer. Si je reprends encore l'histoire des alcooliques, bon, qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, ne serait-ce parce que mon père a eu besoin à un moment donné de ce qu'on appelait la croix d'or, et que pendant des années, je n'ai pas bu une goutte de vin pour l'aider à vivre. Bon, j'ai arrêté maintenant, mais j'ai fait tout mon service militaire sans boire une goutte de vin, 28 mois en Algérie. Et toute la famille, quand mes deux sœurs d'ailleurs ne boivent toujours pas de vin, pour aider notre père, qui avait arrêté de boire, pour l'aider à ne plus boire du tout. Et depuis l'âge de, je sais plus, enfin 53, il avait 44 ans, depuis 42 ans, jusqu'à sa mort, il n'a bu aucune goutte de vin, et nous-mêmes, nous n'avons bu aucune goutte de vin avec lui. Moi, quand je suis devenu prêtre, il fallait bien que je boive du vin. Donc je me suis remis, et puis je continuais un peu à l'extérieur, mais je fais quand même très attention, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est ce qui m'avait frappé chez ces hommes aussi, qui a été marqué par l'alcoolisme, de voir le progrès spirituel que ça entraînait pour eux. Comme si... Alors quelquefois je me dis quand même Dieu est un peu salaud quand même, qui profite de nos faiblesses pour nous faire avancer. Mais en même temps, je crois qu'effectivement, plus Dieu arrive à nous faire sentir notre vide, plus il nous rend avide de qu'il nous remplisse. Je crois que... je reviendrai à ce que je disais hier, quoi, que... Hier, que le péché n'était pas un drame, le drame, ça pouvait lui donner trop d'importance. Mais le péché, enfin, la faiblesse sous toutes ses formes, le fait de découvrir en nous tout ce qu'il y a d'égoïsme, de non-ouverture, de paresse, enfin, tout ce qu'on veut, le fait de le reconnaître, le fait d'en prendre conscience, le fait de prendre conscience que notre liberté n'est pas capable d'en sortir par nous-mêmes, le fait de prendre conscience que malgré toute notre volonté et notre bonne volonté, il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça crée quand même un besoin de Dieu, une ouverture à Dieu. Même si ça ne comble pas le vide. Dieu n'a pas promis de nous guérir de toutes nos faiblesses. Nos faiblesses, quelles qu'elles soient, de tous ordres, sont quelque chose qui nous font sentir le besoin de quelqu'un qui nous guérisse peut-être, qui soit avec nous dans notre faiblesse, dans notre maladie, dans notre... le besoin de quelqu'un qui soit avec nous. Mais Dieu n'a pas promis nécessairement de nous guérir. Il a promis de nous dire, avec ce que tu es, malgré ce que tu es, je t'aime toujours. Avec ce que tu es, malgré ce que tu es, j'attends quand même que tu fasses des pas pour avancer, pour ressembler davantage à l'Évangile, pour être davantage à l'image du Christ, même si il y a des tas de pas qui te sont encore impossibles, même s'il y a beaucoup d'impuissance dans ta vie pour vivre à fond l'Évangile, j'attends que tu aies toujours soif de vivre l'Évangile, j'attends que tu essayes de faire quelques pas pour avancer. Ce qui m'intéresse, c'est pas les justes qui ne bougent plus, c'est ceux qui ont envie de bouger, même s'ils restent encore profondément paralysés. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Je vois que j'avais marqué aussi, tout à l'heure j'ai parlé même des couples de personnes de même sexe qui vivent ensemble, en proposant que, justement, ils essayent de vivre une profonde alliance d'amour, de durée, de fidélité. Et là, je vois que j'ai mis un couple chrétien, un couple priant, et même un couple témoignant. De se dire que, bon, je travaille avec les équipes Notre-Dame, où justement, ces couples essayent la prière conjugale, essaye le devoir de s'asseoir pour réfléchir ensemble, essaye toute une série, de se dire un couple homosexuel, mais qui veut vivre en chrétien, il y a tout un cheminement à faire aussi de prière en commun, de partage en commun, de ce que c'était le devoir de s'asseoir, de faire le point en commun, enfin, il y a toute une série où on peut s'inspirer de ce qui est demandé à d'autres couples chrétiens. Et puis même un couple témoignant de sa foi, un couple qui n'ait pas peur de dire oui, peut-être que nous ne sommes pas le couple idéal, mais nous sommes des croyants, qui est même des engagements. Alors là, les engagements sociaux également dans l'Église, ce n'est pas toujours faisable, ça dépend de ce que demande la communauté, de ce que supporte la communauté. Mais je vois, dans une paroisse, de quelle région c'était, où est-ce que j'étais, et où j'avais découvert que les animateurs liturgiques ou autres, et autour du curé, qu'ils soutenaient, etc., étaient un couple d'homosexuels. Alors c'est pas faisable partout, parce que les chrétiens ne supportent pas toujours. Les chrétiens ne sont pas faciles. Mais, je veux dire, ça m'avait paru comme quand même un beau témoignage de la part du curé d'abord, et de la part de ses paroissiens, qu'ils admettent que, je ne sais plus comment ils s'appelaient d'ailleurs, hein, finalement soient des membres à part entière de la communauté, et même qu'ils jouent un rôle important dans la communauté. Je ne suis pas sûr que c'est faisable partout, je ne suis pas sûr que ça se supportait partout, il y aurait, comme hier, il y avait ceux qui parlaient d'entre vous, là, vous êtes en état de péché mortel, alors évidemment, vous n'avez plus rien à faire, quoi, directement. Mais je crois que c'est un progrès pour une communauté chrétienne quand elle accepte que des chrétiens différents des autres puissent quand même être semblables aux autres dans l'engagement au service du Christ, dans l'engagement au service de l'Église. Ça me paraît aussi important, hein, que le mariage pour tous, que la possibilité de l'engagement pour tous au service de l'Église et d'être connu comme tel pour cela. Alors, bon, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Maintenant d'ailleurs, enfin je me demande pourquoi. Je crois quand même que les chrétiens ont un peu de peine à admettre, à la limite, la différence. Enfin, hein, admettre la différence. Hein, alors, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'un modèle d'existence chrétienne. Alors, je ne dis pas que le modèle, c'est celui-là qui fait. Ben, c'est celui-là qui est. Donc, puisque c'est comme ça, ben, qu'on vive en chrétien comme ça, et que ça soit reconnu par les autres. Il y a peut-être... Et c'est là que vous pouvez jouer un rôle aussi. Un rôle de... En travaillant à vous faire reconnaître comme chrétien authentique, comme chrétien, quels que soient les problèmes par ailleurs, je crois que vous pouvez quand même travailler à catholiciser l'Église, enfin, à s'ouvrir à des différences, etc., à reconnaître à reconnaître le Christ vivant et travaillant, hein, à travers bien des modèles différents, quoi. Parce que c'est finalement le Christ qui est à l'origine. C'est parce que le Christ est présent à chacun des personnes que nous sommes, avec leurs difficultés, des couples que nous sommes, etc. Hein. C'est parce que le Christ est aimant, nous aime, que nous avons le droit à être reconnus et aimés par les autres. Si le Christ nous aime tel que nous sommes, pourquoi vous refusez-vous d'aimer ce que le Christ aime? C'est ça la question. Alors, ça ne se pose pas uniquement pour la question de... Ça se pose pour... pour tous les domaines. Ça se pose même, justement, même pour l'accueil international. Hein, de se dire, si le Christ aime tous les hommes, je dois aussi accueillir tous les hommes. Mais il faut reconnaître que l'Église n'a quand même pas toujours le mauvais rôle. Moi, je suis frappé d'avoir comme ça discuté avec des chrétiens venant de l'étranger, me disant quand même, les immigrés, me disant quand même, c'est quand même dans l'Église qu'on est le plus accueilli. C'est quand même dans l'Église. Et je vois un maire de banlieue, la banlieue de Créteil, là, enfin, à côté de Créteil, alors le curé se plaignait que finalement, il y avait quand même peu de monde à l'Église, que, etc., il rassemblait. Le maire lui dit, monsieur le curé, vous en rassemblez bien plus que moi. Et puis, quand je vous vois le dimanche à la sortie de la messe, je vois des noirs, des jaunes, des blancs, des bruns, non, des bruns n'a pas rien à voir, etc. À la fin de la messe, ils restent là, ils discutent, etc. Des gens de toutes origines, de tout pays et de toute langue, il dit, moi, je n'y arrive pas. Vous êtes la seule institution qui arrive à rassembler, hein, des gens à cause de leur foi. Et ça ne se joue pas qu'en France. Quand j'ai été faire un sabbatical aux États-Unis, c'est pareil, la paroisse française était une paroisse multicolore. Hein. Finalement, quand même, l'Église, c'est pas si mal que ça. Hein. On a pas mal de défauts, mais finalement, quand même, et je vois d'ailleurs des gens, des Africains ou autres, me disant, mon père, quand on va dans un pays étranger, le premier endroit qui va nous accueillir, c'est quand même les chrétiens et l'Église. Hein, c'est quand même toujours là qu'on est sûr d'être accueillis les premiers. Ailleurs, c'est plus compliqué. Alors, ben, est-ce qu'il faut avoir de l'orgueil? Non. Mais de la fierté, oui. Hein, la fierté d'être chrétien, et la fierté d'être chrétien, c'est-à-dire d'être frère, d'être capable d'être frère pour tous les hommes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs limites, quelles que soient leurs difficultés autres. Hein. Moi, je me réjouis que devenir un Christ existe, parce qu'il montre que... Mais je souhaite que, justement, tous ceux qui appartiennent à devenir un Christ soient reçus sans difficulté dans les communautés où ils vivent, puissent y prendre leur place, puissent être reconnus. Je suis pour le rassemblement des chrétiens à devenir un Christ, mais je suis pour l'éclatement, hein, pour que partout ils puissent être source d'accueil par les autres, puissent faire grandir la capacité d'accueil des chrétiens. Je crois qu'en vous affichant tel que vous êtes et chrétien, je crois que vous pouvez élargir l'ouverture des chrétiens. Il y a un témoignage à donner, de dire, de montrer, on peut, dans la situation qui est la nôtre, on peut être profondément chrétien, et vous avez à nous, nous prenons notre place au milieu de vous, mais vous avez à nous accueillir. Je crois que témoigner de la foi chrétienne qui est la vôtre, dans la situation qui est la vôtre, c'est un service à rendre à ce que j'appelais tout à l'heure la catholicité de l'Église. Ne pas rester entre vous, parce que vous reconnaissez les uns les autres, mais vous faire reconnaître, tel que vous êtes, par les autres, comme d'autres antiques chrétiens à part entière, et même quelquefois à 150% plutôt qu'à 100. quand je vis avec devenir en Christ, enfin dans les réunions aujourd'hui, etc., je me dis, il n'y a pas tellement de lieux où les chrétiens puissent montrer une telle foi, et une telle foi ouverte. Vous n'êtes pas si mal que ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes chrétien. Pourquoi ? Parce que le Christ est là pour vous faire travailler. Donc le problème, au terme de cela, c'est pas dire « on est les meilleurs », c'est dire « le Seigneur nous a rendus meilleurs, peut-être à cause de cette difficulté qui nous a forcés à sentir encore plus que d'autres le besoin de la grâce du Seigneur, et à sentir encore plus que d'autres le besoin de répondre à ses appels. Comme je disais hier, vous ne seriez peut-être pas si chrétien si vous n'avez pas eu les difficultés que vous avez eues. Que c'est une grâce. Non pas la fête, mais la grâce que le Seigneur se sert, d'ailleurs de n'importe quelle difficulté, parce que ça joue bien pour bien d'autres choses, que c'est une grâce que le Seigneur se serve de nos faiblesses, non pas pour nous guérir nécessairement, mais pour nous faire sentir qu'on ne peut pas vivre sans lui. Alors si vous repartez plus chrétien aujourd'hui, je m'en réjouis, ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui travaillait et qui faisait que ce que j'ai pu dire rencontrait un écho en vous. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y aurait pas beaucoup de récolte. Je pense que le Saint-Esprit a beaucoup semé et j'espère qu'il y aura une belle récolte.